bénisse. Ça fait bien plaisir de se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Voilà. Et ben, avant d'aller plus loin, je voudrais demander à Jérôme, tu veux prier pour remettre cette prédication ? Eh bien, nous allons prendre un texte biblique dans la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens. Et nous allons lire au chapitre 2, quelques versets, les versets 14 à 17. Donc, 14 à 17. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 2. Versets 14 à 17. Alors ne confondez pas 1 et 2 Corinthiens, hein. C'est 2 Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu.
Voilà. Vous avez donc, si vous regardez bien l'humanité, vous pouvez la diviser en deux. Il y a une partie de l'humanité qui est optimiste, et il y a une partie de l'humanité qui est pessimiste. Et même si vous partagez votre temps, vous pouvez aussi le partager en deux. Il y a une partie de votre temps où vous êtes optimiste et une partie de votre temps où vous êtes pessimiste. Il y a des jours où vous vous levez le matin et le soleil est bleu. Non, le ciel est bleu. Et le soleil brille. Et puis, c'est une belle journée. Et puis, vous avez d'autres jours, il pleut, il faut aller faire certaines choses qui sont désagréables. Et vous dites, c'est une mauvaise journée. Et en fait, c'est un langage que l'on emploie souvent. Et on dit, il fait beau temps, ou il fait mauvais. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un me dit, il pleut, et quelqu'un me dit, il fait mauvais, je dis non. Il y a le temps qu'il y a, et on prend les choses comme elles viennent. Hein, à chaque fois, j'essaye de rectifier, parce que nous portons sur les choses un avis négatif ou positif, selon que cela nous plaise ou nous plaise pas. En fait, rien n'est mauvais. Tout est bon. C'est merveilleux. C'est au-delà de toute imagination. Alors nous avons le choix de nous placer du côté optimiste ou de nous placer du côté pessimiste. Et c'est vrai que si vous analysez votre vie et vous regardez tous les événements que vous rencontrez, il y a aussi bien les joies que les peines. Il y a les moments difficiles, il y a les moments faciles, il y a les maladies, il y a la bonne santé, il y a toutes sortes de choses. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous scandaliser, mais tout est bon. Tout est bon. Rien n'arrive qui est mauvais. Nous avons toujours quelque chose de bon. Nous avons notre Dieu qui est là avec nous. Et comment pourrions-nous dire devant lui, ça c'est mauvais. C'est sa volonté. Il y a aujourd'hui un temps, hein, ce matin quand je me suis levé, le temps était plutôt mitigé. Alors certains vont vous dire c'est mauvais, c'est du mauvais temps. Mais c'est beau, c'est merveilleux. Parce qu'il y a une belle journée qui se prépare. La journée est dans notre cœur. C'est un capital que nous avons. Dieu nous a donné et nous a offert quelque chose qui est devant nous. Et dans ce qu'il nous a offert, eh bien, nous avons des multitudes de perspectives. Nous avons des occasions de parler. Nous avons des occasions d'encourager. Nous avons des occasions de prier. Nous avons des occasions de lever les regards vers Dieu. Nous avons des multitudes d'occasions avec toutes les circonstances qui arrivent. Et c'est quelque chose de merveilleux. La vie est quelque chose d'enthousiasmant. Comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte. C'est, remettons-nous dans les siècles passés. C'est la carrière qui était ouverte, en fait, quand il y avait des spectacles, aussi bien, c'était surtout chez les Grecs, il y avait un hémicycle. Et alors maintenant, on a toujours les amphithéâtres, hein, aussi bien dans les facultés que dans les concerts, et dans le théâtre et toutes ces choses, c'est ce demi-cercle. Mais au départ, c'était une carrière. Ils avaient taillé des pierres, et à l'endroit où ils avaient taillé les pierres, eh bien, ils se réunissaient parce que l'acoustique était merveilleuse dans la carrière. Et il y avait un spectacle, les gens se mettaient sur les gradins, et même ceux qui étaient au fond, eh bien, voyaient ce qui se passait sur la scène. Et en fait, nous sommes dans une scène, et nous sommes en spectacle, et nous avons quelque chose à faire, et nous avons quelque chose de merveilleux à faire, qui dépasse tout ce que vous imaginez. Nous sommes les conquérants de Dieu. Nous avons la perspective d'être au service de Dieu, d'un jour d'être dans sa présence pour l'éternité. Nous avons quelque chose à faire, que ce soit avec du soleil, ou que ce soit avec des nuages, ou qu'il pleuve, ou qu'il fasse quoi que ce soit, eh bien, vous avez une œuvre de Dieu à accomplir. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est au-delà de toute imagination. Et nous avons tendance à dire, oui, mais ce n'est pas, oui, mais c'est beau, mais j'aimerais bien que ça soit différent. C'est bien, mais et c'est oui, mais c'est, on a toujours quelque chose d'autre à imaginer. Voilà. Mais en fait, nous avons la carrière, même quand on parle d'une question professionnelle, on dit c'est ma carrière, hein, c'est voilà. Et en fait, nous avons devant nous un plan de Dieu. Nous avons quelque chose de merveilleux, quelque chose qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu compte sur vous. Il compte sur vous. Il vous a jugé digne d'être dans la situation où vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais je suis malade. Oui, mais je suis fatigué. Oui, mais je n'ai pas de travail. Oui, mais hein, tous ces oui, mais. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Ah, vous avez dit, vous allez me dire, mais vous n'y êtes pas. Je suis d'accord, je ne suis pas dans votre situation. Je suis dans la mienne. Et elle me suffit et je trouve que c'est une carrière merveilleuse et avec beaucoup de difficultés. Mais vous allez me répondre la même chose. Mais Dieu vous a fait confiance pour vous mettre dans une certaine situation. Et dans cette situation, eh bien, vous allez devoir glorifier Dieu. Vous allez devoir rendre grâce à Dieu. Vous allez devoir lever les regards vers Dieu et dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Et même, je crois comprendre, mais peut-être que je ne comprends rien. Mais je te fais confiance que ma vie est dans ta main et que tu la diriges et que tu conduis toutes choses. Je te rends grâce pour tout ce qui arrive. C'est quelque chose de difficile, vous savez. On peut rendre grâce à Dieu parce que tout arrive au bon moment et dans la bonne. Hein, mais rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles et dire, Seigneur, tu conduis ma vie est dans ta main. Et tu sais exactement où tu me conduis. Et tu sais exactement ce que tu vas faire de ma vie. Et tu sais exactement comment tu vas prévoir le lendemain. Et comment demain sera fait. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu éternel. Il nous a mis dans une carrière immense. Quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous avez, comment dire, votre vision en tant qu'être humain est limitée. Elle est limitée dans le temps. Elle est limitée dans l'espace. Vous avez combien de personnes pouvaient dire, ah, mais c'est merveilleux, je vais faire ceci. Allez, vous prenez votre voiture et vous avez décidé d'aller, et puis au bout de quelques kilomètres, votre voiture dit qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin. Elle a décidé que c'est fini. Et bien, les plans sont changés. Et c'est quelque chose de merveilleux. Parce que vous allez dire, vous n'y êtes pas, hein, vous n'êtes pas arrivé. Ça m'est arrivé. Mais c'est le moment où votre foi est mise à l'épreuve, où dans la tension, votre regard se tourne vers Dieu et vous dites, Seigneur, Je continue à croire. Je continue à me confier en toi. Je continue à regarder, même si c'est difficile. Même si je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. C'est un jour, j'étais dans un supermarché. Et je vois quelqu'un avec une mobilette. Et je dis, oh, c'est lui. C'est un copain d'école. Ah, je me dis, tiens, je vais lui dire bonjour. Alors, j'ai pris ma voiture, mais vous savez, une voiture circule beaucoup moins bien qu'une mobilette. Alors, il y avait un encombrement. Les parkings dans le midi, l'été, c'est souvent encombré. Vous avez des embouteillages dans le parking. Et il vous faut 2 heures pour sortir d'un parking. Hein. Et je me rappelle, un 15 août, avoir passé 2 heures pour sortir du parking. Hein. C'est comme ça, un supermarché Auchan à Perpignan. Je peux vous dire qu'il y a 2000 places et vous pouvez même avoir 2000 places prises. Et vous tournez dans le supermarché, dans un embouteillage, à chercher une place que vous ne trouvez pas. Hein. Il y a des moments où il ne faut pas y aller. Et alors, donc c'était une situation un peu comme ça. Et j'ai vu ce copain partir. J'ai dit, Seigneur, je voudrais lui dire bonjour. Je voudrais lui parler. Et l'embouteillage qui n'en finissait plus. Et je me suis dit, finalement, je ne réussirai pas. Et puis, à un moment, je dis, tant pis, il est parti, et sa mobilette, il est déjà loin. Et puis, donc, je continue en me disant, Seigneur, tu sais toute chose. Tu n'as pas voulu que je parle avec lui. Et bien, c'est dans ta main. Tout est dans ta main. Et quelques kilomètres plus loin, je le vois en train de pousser sa mobilette. Il venait de crever. Alors, c'est pour vous dire que les choses ne sont pas telles que vous les voyez. Il y a l'embouteillage, il y a ce moment difficile, mais on va être découragé, évidemment. Tout laisse entendre que c'est non, que ça ne se passera pas, que ce n'est pas possible. Mais vous levez vos regards vers Dieu et vous dites, Seigneur, je continue à croire en toi, je continue à me confier en toi. Rien n'est, ce que l'on voit n'est pas toujours vrai. Satan essaye de nous faire prendre certaines choses visibles comme étant une vérité absolue, que vous allez, c'est perdu. Mais non, ce n'est pas perdu. Parce que Dieu est capable de changer les choses et de transformer de telle manière que tout arrive à sa gloire. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous, eh bien, nous avons cette tendance à regarder à l'immédiat, à regarder au visible, à regarder à ce qui nous embarrasse. Mais jamais, si vous regardez, quelqu'un a vraiment réussi quelque chose sans qu'il y ait du travail, sans qu'il y ait de la persévérance, sans qu'il y ait même des larmes, même sans qu'il y ait des échecs. Et si vous avez fait quelques études, eh bien vous vous rendrez compte que vous avez des gens qui... Et vous avez dû travailler, vous avez eu des amis qui ont travaillé, qui ont réussi, parce qu'ils ont travaillé, c'était dur. Et personne ne dit, il y a trop de travail. On sait bien qu'il faut travailler et qu'il faut faire toutes ces études et que finalement il va y avoir des examens, que ça va être difficile et que ce sont des épreuves, hein, les épreuves du bac, les épreuves du BEPC. Hein, certaines personnes ont fait ça parmi les jeunes. Hein, il y a eu le BEPC, il y a le bac, et il y a toutes ces choses. Ce sont des épreuves. Et dans notre vie de tous les jours, eh bien, il y a des épreuves. Alors, on n'appelle pas ça les épreuves du bac ou du BEPC ou d'un doctorat quelconque, mais néanmoins, ce sont des épreuves. Ce sont des moments de passage où nous passons, et c'est obligatoire, il faut passer par là. Et souvent, il m'arrive de parler avec des personnes et de leur dire, mais non, c'est la foi réelle est une foi éprouvée. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Parce que la foi sans épreuve, c'est une croyance. Mais quand la croyance a été éprouvée, elle devient la foi. C'est dans Pierre, hein, que nous trouvons cela. La foi éprouvée. Il faut que la foi soit éprouvée. Il faut que notre vie chrétienne soit éprouvée. C'est normal. C'est juste. Nous ne pouvons pas faire autrement que de passer par des épreuves et que de passer par des moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Alors vous dites, oui, mais j'aimerais bien qu'il y en ait moins. Ce n'est pas vous qui allez juger, c'est Dieu. Et vous remettez votre vie entre ses mains. Et il y a des épreuves, en effet, et de grandes épreuves. Et je ne veux pas minimiser vos épreuves. Elles sont à la mesure de votre foi. Elles sont à la mesure de ce que Dieu a décidé pour vous. Elles ne sont pas au-delà de vos forces. Hein, c'est Paul qui le dit dans cette deuxième épître aux Corinthiens. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si vous avez besoin d'apprendre un verset, apprenez-le, celui-là. Hein. C'est un très très bon verset et il est très bien pour dans les situations difficiles. Les épreuves sont humaines. Dieu est fidèle. Et c'est dans vos forces. C'est impossible que ce soit autrement. Alors vous dites, non, je n'ai pas la force. Vous avez la force. Si vous avez cette épreuve, c'est que vous avez la force. Parce que Dieu est fidèle. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas que vous soyez éprouvé. C'est que votre foi triomphe. Parce que Dieu a en vue votre foi. Parce que Dieu a vu qu'il y avait de la foi chez vous. Mais cette foi, il veut la consolider. Il veut l'affermir. Cette foi, il veut la faire triompher. Cette foi, il veut la rendre brillante comme un diamant. Et un diamant qui brille, ben, même si, il faut qu'il soit taillé. Et il faut qu'il passe par l'épreuve. Et nous, nous sommes éprouvés. Et il faut que nous soyons éprouvés. C'est normal. C'est juste. Alors, le pessimisme et l'optimisme dont j'ai parlé au début, vous comprenez qu'un chrétien ne peut pas être pessimiste. C'est impossible. Un chrétien ne peut être qu'optimiste. Il y a un regard qui est tourné vers Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Je lisais cette parole. C'était un chrétien qui avait une prédication du 19e siècle. Les chrétiens s'encourageaient de cette manière-là. Et alors, il avait prêché sur ce passage où le Seigneur Jésus arrive et il y a la tempête. Et il n'est pas dans la barque, justement. C'est la deuxième. Il y a deux tempêtes. Hein. Une où il est dans la barque et une où il n'est pas dans la barque. Il rejoint les disciples. Alors, il y en a deux. Et donc, celle où il arrive, ils le prennent pour un fantôme. Et le Seigneur Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Et en fait, dans toutes nos épreuves, il nous dit, rassurez-vous, c'est moi. J'y suis. Je suis avec vous. Je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas là pour vous faire peur ou pour vous impressionner. C'est ma main. C'est moi qui le permet. Toutes ces choses-là, c'est pour votre bien. C'est pour votre croissance, pour votre affermissement. Pour votre joie future, vous êtes responsable. Dieu vous a jugé digne d'une épreuve, de passer par un moment difficile. Dieu vous a jugé digne de la maladie. Vous a jugé digne de ces choses parce que c'est l'épreuve de votre foi. Et il faut qu'il y ait un triomphe. Mais combien de fois nous essayons d'échapper à l'épreuve ? Alors on trouve toutes sortes de... les épreuves, chacun a les siennes. Et je ne peux pas les nommer toutes. Mais combien d'astuces, de moyens nous utilisons pour quitter l'épreuve, pour en sortir et dire vite, vite, je vais sortir de cette épreuve parce que je ne peux pas tolérer d'être dans cette épreuve. Et puis nous raccourcissons le temps de cette épreuve. Et nous avons trouvé une solution, une solution de rafistolage. Et nous avons manqué le but de cette épreuve. Alors que Dieu avait en vue que notre foi grandisse, eh bien nous devenons des nains spirituellement, des handicapés de la foi, parce que nous avons choisi une solution qui n'est pas la solution de Dieu, c'est la nôtre. Et Dieu nous laisse libres de choisir nos solutions. Nous pouvons aussi quitter l'épreuve, nous pouvons dire non. Vous pouvez, au moment où vous êtes dans un examen, vous passez le bac, voilà, bon, on a les maths, hein. Demain, je préfère l'histoire. Demain, je vais réussir en histoire. Les maths, c'est pas la peine. Hein. Si vous sélectionnez dans vos examens, eh ben, vous êtes sûr de perdre. Hein. Vous ne réussirez pas. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Ah ben, cette épreuve, elle ne me plaît pas. Je préfère une autre épreuve. Ou en... ouais, ben, le frère, il a une épreuve, c'est je préférerais être éprouvé comme ces personnes-là. C'est... Je me rappelle de cette histoire. Il y avait, c'était un chrétien qui avait tendance à se plaindre un petit peu de ses épreuves. Et un jour, il dormait et il a fait un rêve. Et dans son rêve, il était devant le Seigneur Jésus. Et alors, il avait des choses à lui dire. Il a dit, les épreuves que j'ai, elles sont trop grandes. Hein. C'est des croix qui sont vraiment trop difficiles. Il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Choisis ta croix. Il l'a amené dans un immense endroit où il y a des multitudes de croix. Alors, il en a vu et puis il se promenait sur toutes ces croix. Il a dit, choisis celle qui te plaît. Alors, il en a essayé une. Non, c'est pas bon. Puis il en a essayé une autre. Non. Puis il a essayé. Et vas-y, essaye. Prends tout ton temps. Il a essayé, puis à un moment... il en a trouvé une, celle-là, c'est vraiment celle que je choisis. Hein. Elle me va bien, elle est... Et alors, il a dit, vas-y, prends-la. Et quand il a bien regardé, c'était la sienne. Celle qu'il ne voulait pas porter, c'est celle qu'il a trouvée le mieux, finalement. C'est celle qui lui convenait le mieux. Et en fait, c'est pour moi, je trouve que c'est une grande leçon. C'est votre épreuve, c'est la vôtre. C'est pas celle de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de celle-là. Et c'est celle qui vous convient, celle qui est la mieux adaptée à votre vie. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que cette épreuve vous écrase. Elle est proportionnée à votre constitution, à vos ressources, à votre capacité. Mais Satan vient vous murmurer, elle est trop dure. C'est Satan qui vient vous le dire. Ou votre rébellion. Mais il utilise votre rébellion. Il vient vous dire, Dieu, il est trop dur. C'est injuste. Regarde, l'autre, il a réussi d'un coup, et puis toi, tu mets des années. Et puis, parfois, ce qui se fait très facilement pour une personne se fera beaucoup plus difficilement pour une autre. C'est comme ça. Mais vous n'avez pas la liberté de passer les étapes. Voilà. Vous êtes obligé de passer ces étapes-là. Donc, c'est quelque chose, vous savez, de regarder vers Dieu, ce regard de la foi, ce regard de la confiance et de dire « Seigneur, tout est bien, je te rends grâce. » Je racontais souvent cette petite aventure. Bon, ce n'est pas une petite aventure, mais c'était une grande leçon pour moi. J'avais eu des contraventions injustifiées. Hein. Comme d'habitude, ce n'est pas juste. Donc c'est vrai, je vais vous expliquer. Je me suis retrouvé sur une grande route nationale. Il n'y avait personne sur cette route. Personne. Mais vraiment, il y avait moi. Et puis, il y avait aussi un gendarme. Il était au milieu de la route. Mais, carrément. Alors, c'est une nationale, c'est ce qu'on appelle, c'est la route de Lombèze. Alors, au mois de février, le soleil est exactement, à 4h ou 3h de l'après-midi, il est exactement dans l'axe de la nationale. Si bien que vous êtes ébloui. Et ce gendarme était au milieu de la route. Et il avait une idée géniale. C'est que là, un croisement, il était au croisement. Il y avait une voiture qui était arrêtée à un stop. Il faisait passer la voiture qui était arrêtée au stop et il m'arrêtait à moi. C'est non-sens. Il y a deux voitures. On n'avait même pas besoin d'un gendarme, celui qui s'arrête au stop et il laisse passer celle qui est. Puis c'est tout, on n'avait pas besoin. Mais peut-être qu'il connaissait la personne. Mais moi, j'étais ébloui et je ne l'ai pas vu. Et c'est la personne qui est à côté de moi. Il m'a dit arrête, il y a quelqu'un au milieu de la route. J'ai freiné à mort. Je me suis arrêté à 50 cm des jambes du gendarme. Il était comme ça. Il a eu peur. Hein. Ça, je peux vous garantir qu'il a eu peur. Et il m'a donné le salaire de la peur, c'est-à-dire le maximum qu'il pouvait donner. Voilà. Et j'étais dans le sentiment d'une injustice quand même, hein, parce que je crois que ce n'était pas très correct d'agir de cette manière-là. Voilà. Donc j'avais cette contravention et pas les moyens de la payer. Parce que vous vous rendez compte, le maximum, c'est quand même, c'était cher pour ma bourse et je n'avais pas beaucoup d'argent à cette époque. Donc j'étais 15 jours passé dans l'angoisse. Comment je payais ça? Comment je vais le payer? Et puis le dernier jour, j'étais allé à la réunion de prière. et je suis rentré de la Réunion. Je logeais avec mon frère et mes sœurs et je n'avais pas le courage de les rencontrer. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi ce moment ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas mérité cette épreuve. Et je me justifiais, je parlais de l'abondance, de l'amertume au Seigneur. Et puis, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit. Et cette petite parole qui me disait, est-ce que tu es prêt à aller en prison pour moi ? Tu ne peux pas la payer si on te mettait en prison. Peut-être que tu as un ministère à faire en prison. Peut-être que tu serais... Il y a une personne que tu vas rencontrer et qu'il faudra que tu évangélises. Et peut-être que c'est pour ça que c'est arrivé. Alors ça m'a beaucoup repris. Et je dis, Seigneur, ben, je suis prêt. Oui, mais je ne comprends pas, mais je suis prêt. Quoi qu'il arrive, à rendre témoignage là où tu me placeras. J'accepte l'épreuve. Et à ce moment-là, je peux vous dire, la paix qui surpasse toute intelligence est rentrée dans mon cœur. Une paix immense, immense. Le Seigneur m'a même donné un verset. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et j'étais consolé, rassuré, et j'avais la paix parfaite que toute cette question était réglée. C'était fini. Je n'avais plus besoin de m'inquiéter, c'était réglé. Et quand je suis monté chez moi, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, je suis rentré joyeux, ça allait mieux. Et j'ai ouvert mon livre de méditation pour le jour même. Et le verset, c'était « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dieu l'a dit deux fois. Il a pris la patience de me le dire deux fois. Qu'est-ce que je devais être incrédule ? Je dois l'être encore, le été. Mais le lendemain, avant midi, j'avais reçu l'argent pour payer tout. Au centime près, le timbre amende et l'affranchissement. Et il ne me restait pas un centime pour acheter quoi que ce soit d'autre. C'était la somme pile, exacte. Pour dire que Dieu... a dit, c'est moi. Je suis capable de faire l'impossible. Je ne peux pas... nous sommes que des humains, mais nous sommes dans les mains de Dieu. Mais il y a un moment où il faut fléchir le genou et il faut dire, Seigneur, dans ces moments difficiles, je suis là pour te glorifier. Je suis là pour te louer. Je suis là pour t'adorer, pour te chercher, pour te rencontrer. Je suis à ton service. Ce n'est pas toi qui es à mon service. C'est moi qui suis à ton service. Je suis là pour toi. Et Dieu nous donne l'occasion de le faire. Et je reviens donc à notre texte biblique de ce matin. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et je vous prie de noter les mots. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Le mot « toujours » a une grande importance. Bon, le mot triompher, c'est une grande importance aussi. Mais c'est ce mot toujours. C'est pas de temps en temps. C'est pas quand il y a le soleil brille et les jours où il pleut, on ne triomphe plus. Mais c'est grâce soit rendue à Dieu. C'est de la louange. On l'adore, on le vénère, on le porte aussi haut qu'il soit possible de le porter. Parce que c'est toujours triompher en Christ. C'est le triomphe, c'est toujours. Et pourquoi c'est une fois de temps en temps ? Et pourquoi ce n'est pas toujours ? Mais parce que nous sommes incrédules. Mais parce que nous n'acceptons pas la volonté de Dieu. Mais parce que nous n'acceptons pas les plans de Dieu. Et nous adaptons toutes sortes de choses à notre usage et à notre... on s'arrange. Et on passe une épreuve où on l'a plutôt passée à moitié. On n'y est pas allé jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est la foi. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez et que les jours passent, vous dites, je n'y arriverai pas. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je regarde vers toi. Je ne veux pas regarder vers moi. Je ne veux pas compter sur moi. Je ne veux pas compter sur mes ressources. Je ne veux pas compter sur mon système D. Je veux compter sur toi. C'est toi qui me feras triompher. C'est toi qui me mènera de triomphe en triomphe, de gloire en gloire, parce que tu as le pouvoir de soumettre toute chose à ta volonté. Si Dieu l'a dit, il le fera. Contre toutes les circonstances, contre toutes les évidences, contre tout ce que l'homme peut imaginer, c'est Dieu qui triomphera. Mais il y a une condition, c'est la foi. Il faut lui faire confiance. Et beaucoup de gens ont presque gagné la victoire. Presque. Mais vous savez, quelqu'un qui a presque eu la victoire, c'est quelqu'un qui a eu la défaite, hein. Alors il y a des gens qui ont eu la défaite complète, mais il y a des gens qui ont presque eu la victoire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on m'explique la différence. C'est être presque vainqueur, c'est être vaincu. Qu'on soit complètement vaincu ou presque vainqueur, et un peu, on a presque gagné. C'est, ben voilà, c'est comme cela. On a besoin de foi et de persévérance. Et si vous êtes éprouvé, c'est que votre foi n'est pas encore arrivée à la maturité qu'elle doit avoir. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu n'est pas un persécuteur. Il n'est pas un tourmenteur. Il est quelqu'un qui, comme un père, qui désire le meilleur pour ses enfants. Vous savez, j'ai 3 enfants. J'étais un père très dur pour mes enfants. Très dur. Je n'ai jamais cédé, hein. Jamais. Mais j'ai cédé avec gentillesse, avec amour et avec douceur, hein. Mais jamais je n'ai cédé à un caprice, hein. Jamais. J'ai dit, le caprice n'aboutit qu'à une chose, à une fessée. C'est tout. Et surtout, quand on fait un caprice, on n'obtient pas ce que l'on a fait demander par caprice. On ne l'obtient pas, c'est même pas la peine. Vous ne l'obtiendrez pas, c'est même pas la peine. Alors bon, il le savait, donc les caprices étaient très rapides. Il y a eu au début, puis après c'était fini. Mais on avait vécu une belle vie finalement. Parce que quand ils ont compris que les caprices, jamais je ne cédais sur un caprice, eh ben il n'y avait plus de caprices, c'est fini. Hein. Il n'y avait plus de larmes pour une chose, un rêve. Je me rappelle un jour, j'étais avec une amie, et elle avait son petit qui était en train de faire un caprice. Elle lui cède. Il fait un caprice pour le contraire. Devant moi. Ah, je peux vous dire, bon, hein, c'est pas trop... Je me suis énervé. Je l'ai pris, je lui ai mis 3 tapes sur la couche, et je lui ai dit, même Dieu ne demande pas oui et non à la fois. C'est quand même quelque chose. Eh bien, je peux vous dire que cet enfant qui était impossible, il est devenu mon ami, il venait me voir, il venait sur mes genoux, et c'était vraiment, on était 2 amis, hein. Mais j'ai osé lui dire non. Et je n'écoutais même pas son père. Son père, c'était un fantôme, hein, un absent. Mais c'est quelque chose, vous savez. Il y a des dieux. Si un père ne se laisse pas prendre à des caprices, la plus forte raison, Dieu. Nos caprices, nos larmes, on a envie, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas, pourquoi tu... Et on insiste, et on insiste, et on insiste. Et Dieu a dit... Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Il va le répéter 1 an, 2 ans, 10 ans. Et la chose tarde parce que vous êtes en train de faire un caprice. Et il ne cédera pas. Et ça prend du temps parce que vous êtes en train de faire un caprice. Mais vous avez des cheveux blancs, vous avez de l'âge et tout ça. Mais je peux vous dire, devant Dieu, nous sommes capables de faire des caprices aussi, hein. Et d'insister, et d'insister, et d'insister. Mais Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. La gloire de Dieu. Jamais Dieu donnera sa gloire à un homme. Où il ne changera pas, il ne transgressera pas sa parole. Et c'est là que je voudrais terminer. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. C'est le verset 17. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Devant Dieu, c'est combien de fois nous transgressons la parole de Dieu, nous la falsifions pour la faire cadrer avec nos envies, avec nos passions. Dieu a dit non pour certaines choses. C'est clair. N'y revenez pas. Si Dieu dit non, c'est non. Et ne faites pas un caprice. Parce que un jour, Dieu va dire, ben voilà, tu veux tant, eh ben fais-le, vas-y, je te laisse. Et c'est quelque chose, vous savez, que quand Dieu nous livre à nous-mêmes, nous avons tellement désobéi, nous avons tellement pleuré, pleurniché pour une certaine chose, et puis finalement, Dieu nous livre à nous-mêmes et nous dit, vas-y, fais-le. Et je connais des personnes qui ont été livrées à elles-mêmes, et je peux vous dire, c'est leur vie chrétienne, c'est fini. Ils vivent, oui, même on se demande même s'ils viennent dans une église de temps en temps. J'ai connu des personnes comme cela. Finalement, Dieu a cédé à leur caprice. Parce que Dieu ne veut pas avoir raison et contester toujours avec l'homme. Et malheureusement, eh bien, pour le malheur. Parce qu'il sait que l'homme va vouloir absolument, absolument, absolument. Et il n'y aura, comment dire, c'est l'homme qui ne cédera jamais. Et il veut absolument. Et alors, Dieu le livre à lui-même et lui dit, vas-y, dans cette situation. Et des années plus tard, eh bien, ils disent, je me suis trompé. J'ai fait le mal. Je me suis écarté de Dieu. J'ai fait ma propre volonté. C'est parce qu'on a des multitudes d'occasions de désobéir, vous savez. C'est Dieu nous avertit, Dieu nous donne des principes dans la parole de Dieu et nous les connaissons, nous savons. Combien de fois vous discutez avec Dieu, mais ne discutez pas, la parole de Dieu est claire, il y a certaines choses, il ne faut pas les faire, c'est tout. C'est si vous avez discuté avec Dieu, et bien vous obtenez de faire votre propre volonté, et votre propre volonté, c'est une mauvaise voie. C'est un verset dans les Proverbes, il est dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. On croit qu'on est dans le bon chemin, et qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Le résultat, eh bien, c'est que des années plus tard, c'est une voie ténébreuse, de désespoir, de tristesse. Et combien de personnes peuvent rendre ce témoignage et de dire, je me suis trompé, j'ai pris un mauvais chemin. J'ai pris un moment, une route qu'il ne fallait pas. Je vais vous raconter juste une petite histoire avant de terminer. Quand j'étais enfant, on traversait l'Espagne avec mon père et ma famille, hein, parce que nous habitions au Maroc. Alors, on prenait de la voiture, on traversait le détroit de Gibraltar et on remontait jusqu'à Perpignan. Il y avait 5 jours de voyage. Voilà. Et 5 jours, l'Espagne n'est pas l'Espagne d'aujourd'hui. Hein. Il y avait des routes qui aujourd'hui sont des grandes nationales et peut-être des autoroutes. À l'époque, c'était des pistes. Vous avez un panneau branlant avec une planche et marqué une direction. Et voilà, c'était comme ça. Et mon père avait pris un chemin. Et à un certain moment, il voit dans son rétroviseur 2 carabiniers qui avaient le fusil, comme ça. Et on était du temps de Franco. Et quand les carabiniers avaient les... Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, mon père s'est arrêté, descendu de la voiture, est allé les voir. Et après, il nous a raconté. On a fait demi-tour parce qu'on s'était trompé de chemin. Et le pont au bout, on ne s'était pas trompé de chemin en fait, mais le pont au bout avait été emporté par la rivière. Et si on continuait sur ce chemin, c'était une voie de mort. On allait se tuer. Et les carabiniers étaient là pour tirer dans les pneus de la voiture, pour arrêter la voiture. Il n'y avait même pas un panneau pour dire qu'il y avait un danger ou qu'il y avait quoi que ce soit. Il y avait 2 hommes qui étaient là avec un fusil. Hein. Et puis il y avait une voiture, il passait une voiture toutes les heures ou toutes les 2 heures. Hein. Mais en fait, c'est un peu comme cela. On croit que l'on est sur un bon chemin. C'est notre chemin, mais c'est une voie mauvaise. C'est une voie de mort. Parce que nous avons cru que c'était le bon chemin. Mais finalement, ce n'était pas le bon chemin. Vous savez, les voies de Dieu sont droites. Les épreuves par lesquelles ils nous font passer sont bonnes. Ne gardez pas à l'esprit que Dieu veut votre malheur. Il ne veut pas votre malheur. Dans la théorie, nous savons qu'il ne veut pas notre malheur. Mais dans la pratique, nous agissons comme si Dieu voulait notre malheur. Et dans nos plaintes et dans nos pleurnicheries, eh bien souvent, nous laissons penser que Dieu veut notre malheur, qui veut notre nous faire du mal, qu'il nous persécute, qu'il nous donne pas ce que nous avons, ce qui nous irait bien, ce qui serait parfait pour nous. Et mais toutes les épreuves par lesquelles vous passez ne peuvent pas être autre chose qu'un bon chemin. Ça ne peut pas être autre chose que des voies merveilleuses, parce que c'est la volonté de Dieu que vous passez par ces situations-là. C'est rendez grâce à Dieu, hein, Paul dit, rendez grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est notre chemin, quand nous marchons dans la lumière, quand nous marchons dans la volonté de Dieu, c'est toujours un chemin triomphal. C'est toujours un chemin de victoire. Même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas, même si ce n'est pas comme vous auriez aimé, c'est le chemin de Dieu. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la victoire. Dans un autre chemin, c'est le chemin de la défaite. C'est le chemin où vous allez regretter, vous dites non, ce n'était pas le bon chemin, je me suis trompé. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.